Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Cyril Marais, Marion Bartoli. Sachez que dans quelques instants, nous allons faire un bras de fer. C'est la nouvelle séquence dans cette émission. Team Serena, Team Roger Federer, je vous explique tout ça dans quelques instants. 11h30, les GG tout terrain, tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. Cette semaine, nous étions en Allemagne, à Hambourg précisément, pour la Coupe Davis, une compétition qui ne ressemble plus à grand chose.
Vous, en ce moment, c'est pas terrible.
Non, c'est pas terrible. Les artistes entrent dans l'arène. 15h19, jeudi, le temps s'est arrêté. Le roi a tiré sa révérence. La légende du tennis Roger Federer, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem, a annoncé à la terre entière qu'il allait prendre sa retraite après la Lever Cup. Quelques semaines auparavant, début août, la reine avait dégainé la première et tiré également sa révérence. Serena Williams, la femme aux 23 grands chelems, qui a fait ses adieux à l'US Open. Mais qui a le plus marqué l'histoire? Qui marquera le plus l'histoire de son empreinte? Dans le coin droit, la team Federer, Denis Charvet, Cyril Marais. Dans le coin gauche, la team Serena, Christophe Cessieux, Marion Bartoli. Le suspense est intense. C'est un 2 contre 2 dans cette émission. C'est bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
Et sachez que vous pouvez voter depuis ce matin sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Team Federer ou Team Serena? C'est un 2 contre 2, je le disais, dans le studio RMC. 10 minutes d'affrontement acharné.
T'en fais pas des tonnes, là.
On se croirait au tribunal.
Répondez, Denis Charvet. Sachez que pour l'instant, il n'y a pas de match.
Ah ben non.
Ah ben oui, évidemment.
Team Federer.
Je pense qu'il n'y a pas de débat en même temps.
À 87%. Ah ben, Team Serena à 13%. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais attention.
Je suis étonné qu'il y ait 13% d'ailleurs.
Ouais. Attention. Il peut y avoir un revirement de situation. Vous êtes derrière. C'est de coutume dans cette émission. L'équipe qui est derrière commence et tente de convaincre les auditeurs avec son Team Serena. Marion Bartoli, Christophe Cessieux, c'est à vous la main et ensuite la réponse des deux gaillards. Christophe Cessieux, pourquoi Team Serena?
Alors, d'abord, c'est vrai que c'est très difficile de faire un choix, tant ces deux-là ont marqué leur sport de par leur succès, leur personnalité. Quand tu regardes leur palmarès réciproque, cette file de tournée, 23 titres du Grand Chelem, 319 semaines en tête du classement WTA pour Serena, 20 titres et 310 semaines pour l'autre. Donc, en l'occurrence, Serena a un plus beau palmarès que celui de Roger. Mais si j'ai opté pour la Team Serena, c'est pas pour son palmarès, c'est pas pour sa façon de jouer au tennis, c'est pour ce qu'elle représente en elle-même, c'est pour les symboles qu'elle a laissé, cette jeune fille issue d'un milieu pauvre de Los Angeles, formée par son père, avec sa sœur, et qui gravit les sommets, qui devient une l'égérie des femmes et des Afro-Américains. Mais franchement, on en est où avec l'autre élevé dans la banlieue de Bâle dans classe moyenne, toujours bien coiffée, bien polie, bien élevée, jamais un mot plus haut que l'autre. Serena, elle, quand quelque chose n'allait pas, elle allait insulter l'arbitre, elle allait lui dire son fait. Voilà, c'est une vraie personnalité. En termes de personnalité, il n'y a pas photo entre les deux. En termes de jeu, évidemment que Roger, c'est le plus beau, le plus grand sportif de tous les temps. Mais la trace que va laisser Serena, elle est 100 fois plus importante que celle de Roger. Elle a créé une marque.
Elle a défendu.
Elle a défendu. Mais la marque quoi, il est chez Uniqlo, chez les Japonais là-bas.
Ah oui, il a fait la marque,
il a fait quoi oui.
Ah, si, non, mais arrête, non, il a une griffe à son nom, mais c'est pas lui qui fait ça. Ah
ouais, on dit pas de bêtises. Déjà, tu commences à dire des bêtises.
Franchement, c'est un modèle, c'est un exemple, Serena, pour le monde entier. Et je pense que dans 50 ans, on se rappellera beaucoup plus de Serena que de Roger Federer.
C'est notre question. Ce sont deux champions incroyables, évidemment.
Mais c'est ce que la trace qui va rester.
Exactement.
Mais la trace qui va rester, c'est simple. Il y a une seule réponse, enfin une seule question, c'est qui a fait le plus rêver les enfants. Ben c'est Roger Federer.
Et pas oui, mais les petits non, enfants mais... blancs de non, chez toi, mais les non, petits enfants arrête, noirs de l'Amérique non, profonde, arrête, qu'est-ce que tu crois tu penses qu'ils
peuvent pas dans ce débat.
Mais franchement, mais ça fait partie du débat. Non, Denis, non. Mais si, mais évidemment.
On grandit tous, Marion, Cyril, on grandit tous quand on fait du sport avec des maîtres, c'est-à-dire des gens qui nous ont fait rêver, des gens qui nous construisent et qui nous font élever notre niveau. Mais c'est pareil, Federer, c'était un idéal absolu. Pour un jeune, c'est-à-dire qu'il a représenté quelque chose que tout le monde voulait atteindre. Moi, je pense que Serena, c'était
mais
pas la
Serena,
même chose.
Serena, elle est partie d'encore plus bas. Mais je ne parle pas d'arriver à ce niveau-là.
Mais reviens pas au niveau. Je parle au niveau tennistique. Arrête, reste sur le sportif, sur gentil.
Ah non, mais si tu restes que sur le sportif.
Ah, mais non,
ballon, surtout.
Non, pas du tout.
But, c'est tout. Tu t'intéresses
mais
à rien d'autre.
Roger Federer, il a fait du sport. Excuse-moi, il faisait un sport et puis.
Mais oui, mais il est resté que sur le côté sportif.
Mais où est-ce qu'il a élevé son sport? Où est-ce qu'il l'a apporté sur le toit du monde? Mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que Federer est unique dans son monde.
Il y a ces deux aspects, l'aspect sportif effectivement.
Essentiel l'aspect sportif. Ouais. Mais bon, d'accord. À ce moment-là, moi, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas débat même. C'est-à-dire qu'on parle d'un mec qui est. Regarde
le message. C'est sûr qu'une femme qui joue au tennis, en plus, elle est noire, pour toi, c'est pas un truc à
prendre. Non. C'est un coup bas. Il retire.
Je finis, je serai à part la Marion après. Regarde les messages, les retours, les messages du monde entier, du tennis, je parle. Je parle pas de.
Par rapport à l'annonce de la fin de carrière.
Oui, c'est extraordinaire.
Mais on a l'impression que c'est la reine d'Angleterre qui vient de mourir. C'est la même
chose. Mais ça veut dire quoi?
C'est dingue, les louanges qui lui sont faites aujourd'hui. Non, c'est complètement
fou. Mais t'as pas été halluciné par le.
Ah oui,
mais ce qui a été écrit.
Je le disais, le temps s'est arrêté.
Le temps s'est arrêté, tout simplement. Et Serena, ça n'a pas été. Dingue. Quand Serena a arrêté, le temps s'est pas arrêté du tout. On a fait une sortie magnifique, c'est super sympa, mais c'est pas le même contexte.
C'est pas la même dimension. Ok, le camp Serena, avec toi, Marion Bartoli.
Alors moi bien évidemment que j'adore Roger, c'est un style absolument incroyable et que il a rendu en fait le tennis, quand tu le vois jouer, t'as l'impression que c'est extrêmement facile de jouer au tennis alors que c'est bien évidemment un sport extrêmement compliqué. En revanche, là où je suis pas d'accord avec toi Denis, c'est que faut pas regarder uniquement sur le prisme effectivement des gens qui vont voir Roland Garros et qui aiment voir jouer Roger parce que c'est beau, parce que c'est élégant, parce que c'est le revers à une main, parce que c'est fluide, parce que c'est délié, parce qu'il remet la mèche sur le banana et parce que c'est tu vois, il y a pas un truc qui dépasse. C'est le gendre idéal, la personne parfaite. Et Dieu sait que je l'adore et Dieu sait que c'est quelqu'un que je respecte du plus profond vraiment de mon cœur. En revanche, pour avoir côtoyé Serena pendant plus de 15 ans, la connaître vraiment, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a dû traverser pour en arriver là, tu peux pas comparer les parcours. C'est un parcours qui est absolument incroyable. N'oublie pas non plus qu'effectivement, Roger a transformé le tennis. Mais que ça sera pas celui qui restera avec le plus de tournois de Grand Chelem. Et que Rafael Nadal ou Novak Djokovic,
de toute façon, Rafael Nadal est déjà à 22
et Novak Djokovic va certainement finir à 24 ou à 25. Mais pour moi, le parcours de Serena Williams, la manière dont elle a inspiré toute une communauté, c'est là où je rejoins totalement Christophe. Il y a plein de jeunes filles aujourd'hui, noires américaines, qui se disent, moi aussi, je peux devenir la nouvelle Serena Williams et j'ai une chance dans ce sport-là réservé. Il faut quand même pas se le cacher non plus. Effectivement, une partie assez élitiste de la population blanche qui devait, entre guillemets, avoir le tennis réservé comme sport. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois les hommages qu'elle a eus de LeBron James, de Tiger Woods, de tous ces sportives-là aussi, qui représentent aussi cette communauté-là, tu peux pas dire qu'elle a pas un impact énorme sur la communauté qu'elle représente et ce qu'elle a engendré. Quand tu vois Michelle Obama, la manière dont elle a soutenu Frances Tiafoe, même si c'est arrivé en demi-finale de l'US Open, sont des personnalités qui comptent. Et aujourd'hui, Serena Williams compte énormément dans cette population. Quand elle fait la couverture de Vogue, il faut voir d'où elle est partie. Elle est partie de Compton, qui est un ghetto à Los Angeles, pour finir tout en haut de la pyramide. Tu vois, c'est quand même une ascension avec une histoire,
histoire,
avec un papa
c'est
qui ne comprend rien au tennis, qui a amené
histoire,
ses deux filles numéro un mondial. C'est une histoire qui est colossale. Ah,
c'est remarquable, c'est génial.
On en parlera encore.
Ok, j'allais dire, Cyril Marais, la team Federer.
J'allais dire, c'est une histoire qu'on peut raconter en film, mais c'est ce qui s'est passé. Donc c'est parfait, c'est très bien, absolument. Bravo. Non mais c'est remarquable ce qui s'est passé, qu'elle vient des bas-fonds, qu'elle arrive à atteindre des sommets incroyables dans une discipline. Mais là, on est en train de parler d'un sport, qu'est le tennis. Et je suis désolé, aujourd'hui, il y a eu carrément. Enfin, je veux dire, Roger Federer. Il a fait passer le tennis dans une autre dimension.
Absolument, mais c'est
il
ça,
a fait passer le tennis dans une dimension. En plus, c'est, enfin, quelque part, moi, je pense que s'il y a des champions comme Nadal, comme Djokovic, il est un peu précurseur de ça, en fait. Il a poussé tout le monde vers le haut à travers
son tennis. C'est Pete Sampras déjà le premier qui a poussé tout le monde vers le haut. Hein.
Oui, non, mais c'est sûr.
Roger Federer était inspiré par Pete Sampras. Le voilà, premier, si tu veux revenir, tu remontes le fil, c'est plutôt Pete Sampras.
Ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai l'impression que lui, c'est la transition. Entre toi, les Pete Sampras, ces mecs comme ça, et puis les Nadal, c'est le mec qui a été tellement, qui a eu une carrière tellement longue. Pour moi, c'est le mec qui a fait la transition entre ces champions extraordinaires qu'on a pu auparavant avant et qu'on commence un peu à moins connaître. Je parle de la jeune génération. Et puis voilà. Donc pour moi, il a apporté une autre dimension au tennis. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, hyper fluide, ouais. Le revers à une main.
Je suis d'accord avec toi. Non mais
vous êtes sur le sportif. Vous dites aussi, mais j'ai l'impression qu'il doit s'excuser parce qu'il est à balle. Mais j'ai l'impression qu'il doit s'excuser parce qu'il est à balle et qu'il est blanc. Enfin, c'est incroyable.
Mais attends, moi je reconnais. Je reconnais. C'est le grand champion.
Pas tous en même temps.
Il a raison. Mais, non, attends, j'ai pas fini. J'étais en train de parler, tu me coupes la parole.
Je vais me lever.
Aujourd'hui, dans l'histoire de la boxe, par exemple, quel est le champion que vous retenez comme le plus grand? Et pourquoi vous retenez? Voilà. Mohamed Ali. Pourquoi? Mais parce que ça a été un grand champion, mais au-delà du sport, c'est quelqu'un qui a.
Laisse finir.
C'est un boxeur incroyable, Mohamed Ali. Ça, je ne peux pas te rejoindre.
Ben oui.
Tu me dis oui, mais.
Mais il a été un boxeur incroyable, comme Serena Williams a été une tenniswoman incroyable.
Par rapport à ses choix.
Il a la dimension politique, la dimension sociale, comme Serena Williams là, par rapport à Roger Federer. Mais c'est ça que je veux dire. Un champion, mais c'est aussi une personnalité.
Mais Federer restera une icône pour le.
Sur le terrain.
Mais dans 20 ans.
Sur le terrain,
mais ça sera au-delà. Parce qu'il a atteint un niveau tel que ça représentait un idéal absolu en tant que joueur de tennis.
Mais
c'est deux idéaux qui s'opposent. Et alors, quand vous parlez des noirs, il y a un jeune noir qui s'appelle Tiafoe.
Oui, son nom, c'est ça.
Qui a dit que son modèle c'était quand même Federer. Je veux dire, ça n'empêche pas les.
Et le modèle de Yannick Noah, c'était qui? C'était Arthur Ashe. Voilà,
non, mais c'est pas ça que je dis. Votre histoire, évidemment, mais ça, Federer a inspiré tout le monde. Toutes les races.
La génération, les générations d'aujourd'hui. Moi, McEnroe me faisait plus rêver parce que, de toute façon, les gens qui te font rêver, c'est ceux qui t'ont fait rêver quand t'étais jeune ou adolescent. Non, donc chacun avait été
en avant.
Moi, Federer, c'est pas mon goût à moi.
Ok, les copains, on va marquer juste une petite pause dans ce débat.
Attends, j'ai pas fini.
C'est pour ça que je parle de pause, Marion. Ça veut dire que ça va reprendre dans quelques instants. Tu vas pouvoir prendre la parole. C'est la mi-temps de ce débat. N'hésitez pas à aller voter sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter. Sachez que les résultats ont évolué. Ce n'est plus le même vote. Il y a quelques instants, Team Federer à 87%.
C'est 99,1.
87%, 13%.
C'est moi qui ai voté.
Pour la Team Serena. Sachez que nous sommes à 86,14. 1%. Vous avez gagné 1%, la Team Serena.
C'est bien la peine de ce.
On continue ce débat. On parle évidemment d'empreinte sur l'histoire. Vous pouvez poser le curseur sur le côté sportif uniquement, mais aussi sur la dimension sociale politique.
Balle,
c'est ce que vous faites avec Serena.
Avec Denis, c'est comme ça.
Marion Bartoli, les 5 dernières minutes de ce débat, on va voir si vous allez réussir à inverser un peu cette tendance. Marion.
En fait, pour moi, c'est deux idéaux qui s'opposent. Et je comprends totalement, parce que j'ai aussi rêvé d'être parfois comme Roger Federer, c'est-à-dire que tout paraît facile. Et je pense que beaucoup de personnes s'identifient ou ont voulu rêver être Roger Federer parce que tu te lèves le matin et que tu as l'impression que quand il met ses chaussures et qu'il prend une raquette dans la main, tout est facile et que c'est comme un espèce de dieu du tennis où il ne peut pas rater une balle, où tous ses coups sont un espèce de génie et que ce génie-là fait rêver. Ça, j'en ai totalement conscience et je partage ce point de vue. Mais pour moi qui aime la manière combative de voir la vie, d'être devant une difficulté, que tout n'est pas toujours tout rose, que tout n'est pas toujours facile, de voir Serena Williams gagner son dernier tournoi du Grand Chelem en étant enceinte de 2 mois et d'arriver quand même à gagner le tournoi du Grand Chelem, d'en gagner son premier tournoi du Grand Chelem, elle a seulement 17 ans en 99, son dernier elle le gagne en 2017, donc avoir une longévité absolument incroyable avec d'énormes problèmes de santé qu'elle a eu au milieu, cette manière combative de voir la vie et de l'aborder, c'est effectivement quelque chose qui me parle également. Mais je comprends totalement que cette partie, entre guillemets, dieu du tennis, facilité, coup de génie, fasse rêver. Parce que j'ai rêvé aussi. J'ai rêvé un jour de me dire... J'aimerais tellement avoir cette facilité de jeu de Roger Federer. C'est quelqu'un, encore une fois, que j'admire énormément. Donc, j'ai du mal à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais cette partie combative de Serena, je pense aussi, parle à beaucoup de personnes.
Moi, grand respect à Serena Williams. Bien entendu, je suis fan. Et par rapport à tout ce qu'elle a fait, et sur le terrain et en dehors, c'est clair. Mais il y a une chose aussi qui me saute aux yeux aussi, c'est par rapport et aux téléspectateurs et aux personnes du public sur des tournois, sur des grands chelems, sur d'autres tournois. Quand tu as Roger Federer dans le tableau, eh ben, c'est pas pareil. T'as beau avoir des Nadal, t'as beau avoir des Djokovic, quand il est là, tu sais que tu vas te régaler, tu vas avoir du beau jeu, tu sais que
Je suis pas dans la team Serena, mais je vais contrer cet argument, et tu as raison, ce Roger Federer, c'est un fait. Mais regarde ce dernier US Open avec Serena Williams.
C'est une folie.
Que les, pour la première fois dans ma vie de journaliste, je sais pas si c'est ton cas aussi, Christophe, mais pour la première fois, on a beaucoup plus parlé du tableau féminin que du tableau masculin.
Il y a eu un chiffre clair. Le match de Serena Williams contre Alia Tomljanovic a été le plus gros record d'audience historique de la chaîne ESPN
aux États-Unis, à mon avis. Mais après, on ne remet pas en question l'exemplarité ou le symbole de Serena Williams. Pas du tout, au contraire, on est très admiratif. Et d'ailleurs, on l'a dit, ça a fait un film magnifique avec Will Smith.
La méthode Williams.
Mais la vérité, c'est on le saura dans 20 ans, 30 ans.
On vous pose la question maintenant.
Comme aujourd'hui, le tennis parle de Rod Laver. Et Rod Laver, moi, je ne l'ai pas vu jouer, tu ne l'as pas vu jouer, et on dit Rod Laver. Non, mais c'est. Il devait être dans 20 ans, 30 ans, on ne parlera que de Federer, il me semble.
Ou peut-être que de Serena.
Aujourd'hui, je suis plus côté Federer pour dire voilà, l'incidence sera plus forte du côté.
Le bras de fer est terminé pour aujourd'hui. Demain, il y aura un autre bras de fer. Je vais vous donner le résultat des votes. C'était un match extrêmement serré.
Tu vois, on en est à niveau social en France.
Team Federer, Team Serena, c'était votre choix, les auditeurs, les internautes, le bras de fer des GG sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Vous avez quand même grappillé un petit peu, et je suis très fier de vous, la team Serena. En plus, vous êtes convaincu pour l'histoire du tennis.
C'est Marion qui a voté, allez, c'est bon.
86 à 14, c'est le résultat après des milliers de votes.
Donc
86.
On gagne 1-0 face à vous. On a
Team Federer, Team Serena. Vous avez gagné Denis Charvet et.
Merci.
Ceux qui ont gagné, ce sont Marion et moi. On est parti de tout bas, on est arrivé un peu plus haut. Donc on a repris du terrain.
Victoire de Serena, c'est comme ça que je
finirai sur une citation de Fabrice Santoro qui a joué face à Federer et qui dit: le seul joueur face auquel je passais autant de temps à me concentrer sur mon jeu qu'à le regarder. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'il le regardait jouer, il jouait contre lui, il se concentrait sur le jeu, mais il le regardait.
Le Federer du rugby, non.
Comme quoi, Fabrice a dit beaucoup de bêtises.
Pourquoi tu dis ça? Mais c'est magnifique ce qu'il dit. Ça veut dire que tu es bien.
Parce que c'est mon collègue, on commente quasiment toutes les semaines ensemble. Donc
non, mais je trouvais c'est mignon cette phrase. Je trouve ça. Qu'il avoue que finalement, il prenait plaisir à le regarder jouer tout en jouant contre lui. C'est extraordinaire.
Tu as raison de le préciser. Il est 11h24. C'est la fin du bras de fer des GG. Dans quelques instants, on va continuer. Sur le tennis, oui, mais un autre domaine. On a parlé de deux légendes. Là, on va parler d'une compétition qui était une compétition de légendes et ça l'est plus trop. C'est la Coupe Davis. C'est le reportage de la semaine. À tout de suite sur RMC. On a passé la semaine à Hambourg et franchement, notre envoyé spécial a eu bien du courage. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h28 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Denis Charvet, Cyril Marais. Sachez que demain, ce sera la première de Christophe Furios en studio. Il sera avec nous,
le coach de
l'UBB. Il joue aujourd'hui, donc il ne pouvait pas être présent ce matin.
J'ai remarqué que Stephen Brun a déclaré forfait. Il a tombé en fait.
Je vous avais raconté cette histoire en plus. Quand j'ai dit à Christophe, bon, tu peux venir quand? Il m'a dit, bon, bah, je peux venir le dimanche 18. suite. Il me dit je veux le grand. Je veux que tu me mettes le grand. Et malheureusement, le grand est parti en Allemagne.
Il est cagué dessus, le grand.
Voilà. D'ailleurs, quand je l'ai annoncé à Christophe, il était fou furieux. Je vous lirai le message où, en disant voilà, il se débine. Mais ça, c'était attendu. Mais sachez que Stephen Brun nous fera quand même un coucou dans l'émission demain pour embrasser son copain Christophe Furios. Voilà, ça, ce sera pour demain. Tous les samedis à 11h30, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Une précision, dans une dizaine de minutes, c'est votre moment, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG ce matin, vous composez le 32-16 et vous venez lui dire directement. Cette semaine, nous étions donc en Allemagne, parce que vous ne le saviez peut-être pas, il n'y a pas seulement l'Euro de basket, mais il y a aussi la Coupe Davis qui se jouait. C'est la phase de groupe, étape éliminatoire de 4 groupes dans 4 villes, qui permet de se qualifier pour la phase finale fin novembre à Malaga. Ensuite, tu fais une dizaine de pompes, quelques abdos et t'as le droit de jouer les phases finales. Troisième formule en 3 ans pour la Coupe Davis de Cosmos et Gérard Piqué, dont le but était de redynamiser la compétition dont tout le monde se moque désormais. On retrouve notre chanceux, notre envoyé spécial Anthony Reich qui a passé la semaine là-bas. Salut Anthony.
Salut les grandes gueules, bonjour à tous.
Alors c'est vrai que c'est un beau fiasco à Hambourg où était engagée l'équipe de France, il faut le dire, déjà éliminée.
Et oui, vous ne rêvez pas, non, vous ne rêvez pas. Ce que vous entendez là, ce n'est pas l'ambiance de l'entraînement de l'équipe de France cette semaine à Hambourg, mais bien un point gagnant de Benjamin Bonzi lors de son match face à Alex de Minaur. Cette phase de groupe de la Coupe Davis à Hambourg est un fiasco total. 300 spectateurs pour France-Australie, une affiche qui a tellement fait rêver pendant des décennies dans cette Coupe Davis. À peine 1 000 pour France-Allemagne. Cela sonne bien creux dans ce magnifique stade Rothenbaum de Handbout de Hambourg. Les supporters français courageux, il faut le dire, se sont déplacés à une petite trentaine. Mais à l'image de David, ils sont désabusés.
C'est un massacre, tout est raté. On va en Allemagne, on s'attendait à avoir du public, quoi. Quitte à lutter à 30 contre 10 000 personnes, mais bon, c'est pas le cas. On fait presque jouer égal dans les tribunes alors qu'on est 27, c'est assez fou. Hein. Ça serait bien que ça s'arrête. Alors après, qui veut reprendre, je sais pas vraiment. Essayer de revenir vers un ancien format, peut-être quitte à jouer tous les 2 ans, mais même carrément tous les 4 ans comme une Coupe du Monde.
Alors ajoutez à cela un stade semi-couvert ici à Hambourg, en plein courant d'air, où il fait à peine une quinzaine de degrés, voire 12-10 degrés le soir lors des matchs de soirée. Pas l'idéal pour jouer un tennis de haut niveau. Des tarifs excessifs avec un premier prix dans les places les moins bien placées à partir de 67,50 €. Ou encore des couacs d'organisation. Manarino devenu australien sur les tableaux d'affichage. Son adversaire Oscar Otte, belge au début de leur rencontre. Des t-shirts de sponsors délivrés sur le parvis aux alentours du stade, avec le palmarès de l'épreuve qui affiche la France vainqueur de la Coupe Davis en 2000. Pas de bol, c'était l'année du succès de l'Espagne. Sur le terrain, les joueurs font le job. Il y a eu de belles rencontres, mais la flamme a disparu, comme le reconnaît Adrien Manarino.
Pour un match de Coupe Davis, après avoir connu tous les grands matchs qu'il y a eu, de voir une ambiance un peu triste comme ça, c'est pas génial, hein, mais bon, après faut comprendre, difficile de venir d'Australie pour venir voir un Belgique-Australie à Hambourg. Faut être courageux pour faire ça.
Alors le président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moreton, a fait le déplacement à Hambourg cette semaine pour les 2 premières rencontres face à l'Allemagne et l'Australie. Et il a assisté évidemment à un spectacle désolant.
Être dans une salle un peu plus de 1000 personnes, c'est très triste, quoi. Voilà, de voir ça, de voir ce qu'on a fait de cette Coupe Davis. Au bout de 3 ans, on n'y comprend plus rien. Aujourd'hui, on est dans de la négociation comme ça, au coin d'une table. Et puis on arrange un peu qui a envie d'être arrangé. Et puis surtout, celui qui est capable de payer avec les moyens que sont les nôtres et ceux qui ont envie de s'engager dans une réforme ou dans un changement. Moi, je suis prêt à mener un combat.
Ah oui, et puis dernière incongruité en date, aujourd'hui l'équipe de France joue son dernier match face à la Belgique dans cette phase de groupe de la Coupe Davis. Mais en fait pour rien, car les deux équipes sont déjà éliminées, là aussi une grande première dans la compétition.
Merci beaucoup Anthony Reich pour ce reportage édifiant, c'est à vous de trancher les GG. Je ne vais pas vous demander si la Coupe Davis est un fiasco, je pense qu'il n'y aurait pas débat. Mais plutôt vous interroger sur une autre question. On parlait de boycott avec Eric Cantona sur la Coupe du Monde tout à l'heure. Est-ce que les joueurs eux-mêmes doivent arrêter la mascarade et boycotter la compétition? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non, c'est pas eux de le faire.
Ben oui, non.
Attends, je t'ai pas demandé encore. Cyril Marais.
Ah, j'ai mon micro de allumé, pardon.
C'est plutôt non aussi?
Non aussi.
Ok, Marion Bartoli.
Malheureusement, non.
Ok. Denis Charvet.
Malheureusement non, parce qu'ils sont impuissants et c'est pas leur rôle.
Ouais. Ok, tu prends la main. Pourquoi, Denis?
Simplement, c'est, je pense que c'est aux fédérations déjà de. Alors, Gilles Moreton n'était pas là quand ça y a eu le changement. Hein, c'est ça. C'était l'ancien président.
Président précédent.
Donc, et je suis très heureux qu'ils prennent ce combat à cœur, et qu'ils essayent de bouleverser cette Coupe Davis. Donc, j'ai dû. Je suis très sceptique quant au changement. Après, il y a trop d'oseille, il y a trop d'argent en jeu et que je sais pas où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent pour changer cette formule.
Mais quand on voit ce qui se passe là à Hambourg, on se dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ça fait déjà 3 ans et elle est déjà morte, cette compétition.
Ça intéresse personne, on le sait. Après, les seuls qui peuvent changer, je sais pas, Marion peut le dire mieux que moi, mais c'est les fédérations tout simplement.
Mais les fédérations, il y a des joueurs, il y a des représentants des joueurs. On sait que Novak Djokovic était largement impliqué là-dedans. Marion, est-ce que les joueurs qui ont du poids, évidemment, on va pas demander au 250e mondial de boycotter la Coupe Davis, mais ce sont aux grands joueurs de dire, écoutez, nous on n'en peut plus, on arrête, non
les
Marion?
Les grands joueurs, ils vont pas se retirer.
Oui, de toute façon, déjà, les grands joueurs l'a joué très peu. Il l'a joué de temps en temps. Une fois qu'il l'avait gagné, comme ça a rajouté trop de semaines dans les programmes, de toute façon, ils en faisaient assez rapidement l'impasse. C'est pas aux joueurs de se mobiliser là-dessus. Ils n'auront pas assez de poids, quoi qu'il arrive, parce que les équipes sont quand même formées. Parce que même si Djokovic, pour la Serbie, ne joue pas, bah, il y aura 4 autres joueurs serbes qui auront la jouer pour la Serbie. Et que la Serbie ne va pas aligner 0 joueur. Donc, pour moi, de toute façon, c'est aux fédérations de reprendre la main. D'arrêter d'avoir vendu cette compétition à un groupe extérieur comme ils l'ont fait. Il faut que ça reste dans la famille tennis. Il faut mettre des gens qui sont compétents dans le tennis. Et il faut arriver à réorganiser une compétition comme ça a été auparavant. Quand tu regardes les phases de poule qui se déroulent actuellement en Espagne, effectivement, quand l'Espagne joue, c'est plein. Donc, on voit très bien que quand il y a un pays hôte et que le pays hôte intéresse, c'est à nouveau plein parce que les gens, voilà, veulent revoir Alcaraz, qui a d'ailleurs perdu hier contre Jalassim. Mais les gens sont présents parce qu'ils ont envie de voir leur champion jouer. Donc, on voit très bien que c'est, il y a que la formule qu'on appelle en anglais home and away, donc à domicile ou à l'extérieur, qui fonctionne. Il y a que ça qui fonctionne. Repartir sur un groupe de pays beaucoup plus restreint, parce que tu l'as dit, là, déjà, ils sont en phase de groupe. Après, il faut aller jouer une autre phase ailleurs. Puis après, éventuellement, être qualifié pour les phases finales. Enfin, il y a beaucoup trop de matchs. Donc, revenir à une compétition avec moins d'équipes. Les équipes qui sont dans la catégorie en dessous ont la possibilité de se qualifier pour le groupe mondial. L'équipe qui gagne, pour moi, doit avoir un tour exempté où ils rattaquent à partir uniquement la demi-finale, parce qu'effectivement, il y avait ce problème où tu l'as gagné au mois de décembre et dès le mois de février, tu devais être à nouveau sur le pont, ou au mois de mars, à nouveau sur le pont. Donc, éventuellement, être exempté du premier tour et jouer directement à partir du tour suivant. Mais avoir un aménagement et surtout que ça reste que dans la famille tennis. Pourquoi ils l'ont vendu à Gérard Piquet? Déjà, Gérard Piquet, il fait assez de bêtises comme ça dans sa vie privée. Il n'a pas besoin de commencer à vouloir en plus nous massacrer la Coupe Davis chez nous. Qui reste avec ses problèmes, qu'il a géré ses problèmes. Non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Tu ne vends pas un truc à Gérard Piquet. Tu vois ce qu'il en a fait? Chacun a sa compétence.
Il aurait pu être très compétent.
Aller racheter son truc en Liga ou à Barcelone.
Voilà, c'est parce que c'est les dirigeants, du tennis mondial, Marion, qui ont vendu leur âme au diable en échange de promesses d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et ils en ont même pas vu la couleur en plus, hein, mais c'est les Guidicelli et compagnie qui ont vendu ça à Piquet. C'est pas Piquet qui est venu faire un hold-up. Il leur a proposé un truc, ils étaient trop contents de se dire qu'ils allaient prendre des sous. Non, après maintenant, on savait au moment où ils ont vendu ce truc-là que c'était la mort de la Coupe Davis. Aujourd'hui, cette compétition, elle n'a plus de Davis que le nom. Il y a rien, c'est une coquille vide. Il faut arrêter cette compétition. Si c'est pour voir ça, ce spectacle affligeant, ça sert plus à rien. Donc tu tires un trait et éventuellement tu refais quelque chose, une autre version dans 2-3 ans. Mais là, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Ça n'a aucun intérêt.
La version à 3 matchs n'a aucun sens. La version à 2 simples, 1 double n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, j'ai grandi, j'ai voulu jouer au tennis parce que j'ai vu la Coupe Davis 91 à Gerland avec Henri et Guy qui ont battu les États-Unis. Le double au milieu du week-end était absolument capital. D'ailleurs, tu as les deux derniers matchs dimanche. Une Coupe Davis, ça va être sur 3 jours et c'est 5 points. C'est pas 3 points et sur 1 jour, ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens se passionnent parce que justement, il y a un match qui peut être extrêmement important. Il y a les points qui s'accumulent. Il y a le stress qui commence à augmenter. Et le dimanche, c'est vraiment, parce qu'il y a 3-0. 3-0 auparavant, mais le dimanche est le jour capital où là vraiment le stress est à son comble et les décisions du capitaine sont capitales sur qui va mettre en simple ou en double, qui va aligner. Donc il y a plein de paramètres et c'est ça qui rend cette compétition excitante. Oui, c'est pas de les faire sur un jour avec deux simples, un double et c'est réglé en 8 heures ou en 9 heures de jeu. Oui, c'est ridicule.
Bien sûr, ça je suis d'accord avec toi, mais pour revenir à notre débat, est-ce que ce sont aux joueurs de prendre les choses en main, de dire stop, on arrête la mascarade, nous on ne veut plus jouer? Vous êtes souvent en train de dire dans les GG, il faut que le sportif s'implique au-delà du sportif, qu'il entre dans les instances, qu'il ait un vrai poids et qu'il sorte de sa zone de confort.
Jean-Christophe, si je peux me permettre, en fait, Anthony, les joueurs n'en ont rien à faire. Oui. Ils ne s'occupent pas plus, qu'avant. Aujourd'hui, si les joueurs, notamment les Français, peu importe la nationalité, sont présents, il faut le dire, il faut dire les choses. Ils sont tenus par le prize money, qui est beaucoup plus important que lorsque tu jouais la Coupe Davis par le passé, puisque le seul unique avantage de la Coupe Davis Cosmos de Gérard Piqué, c'est le prize money, qui a bien réduit d'ailleurs depuis, par rapport aux promesses initiales. Donc ils sont un peu tenus par ça. Et en fin de compte, la promesse initiale, c'était de dire on va faire revenir les Federer, les Djokovic, etc. Ils sont où? Ils sont nulle part. Ils ne la jouent pas, cette nouvelle formule.
De toute façon, tu peux faire n'importe quelle formule s'ils ont décidé dans leur programme que c'était trop, ils n'ont pas la jouer avec n'importe quelle formule, c'est ridicule.
Encore plus de matchs, que dans la formule précédente, et ça va s'aggraver encore plus la saison prochaine, puisque les Masters 1000 notamment vont s'étaler sur 10-11 jours, donc il y aura encore moins de place dans les calendriers, qui est déjà complètement surchargé, donc encore moins l'année prochaine. Ça sera même plus un cimetière, ça sera un désert total, la Coupe Davis.
On a une idée de combien touche un joueur pour disputer la Coupe Davis?
Ça dépend du niveau de la compétition auquel tu
La phase de poule, là par exemple, aller faire ses matchs contre la Belgique et l'Australie, on sait ou pas? Ou non, on n'a pas de chiffre précis à nous donner, Anthony Reich?
En fait, c'est pas un joueur, c'est une dotation qui est donnée à chaque fédération qui participe à la phase de poule. Et je crois que de mémoire, si je ne me trompe pas, on était sur quelques centaines de milliers d'euros par fédération sur la phase de poule.
Okay. Divisé par nombre de joueurs.
Voilà, divisé par nombre de joueurs, le staff.
Cyril Marais, ce ne sont pas aux joueurs de prendre les choses en main?
Mais oui, s'ils peuvent.
Merci Cyril Marais, là, c'est Denis Charvet.
Oui, mais c'est une question.
C'est toujours délicat.
Une question qui est idiote.
Ah oui, d'accord. C'est pas parce que t'as pas de réponse que la question est idiote.
J'ai une réponse, justement.
Non, mais je pense vraiment que c'est toujours délicat, en fait, de demander aux joueurs de prendre position sur des engagements ou sur des boycotts ou sur ce genre de choses. Il faut revoir ça rapidement. On peut pas laisser cette Coupe Davis sombrer comme ça. Puis il y a aussi le fait de vouloir à chaque fois du changement sur des compétitions qui auparavant marchaient très bien, vouloir toujours essayer de mettre du renouveau. Enfin, je trouve que des fois c'est un peu compliqué aussi à chaque fois de
vouloir. C'est du gadget. Voilà. On innove, mais après on peut tuer certaines compétitions, et comme là c'est le cas.
Puis à chaque fois j'aime bien prendre l'exemple de notre discipline, tu vois, le judo aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétitions. Aujourd'hui le calendrier du tennis, il est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est surchargé. Donc à un moment donné, encore rajouter ce genre d'échéance, les grands n'iront pas, c'est sûr.
Ok, je vais tenter de poser la question différemment.
Et puis surtout,
vas-y, Marion.
Encore une fois, si tu veux. Bon, de toute façon, là, maintenant, Roger a pris sa retraite, mais de fantasmer à d'avoir Novak et Rafa qui sont beaucoup plus sur la fin de leur carrière que sur le début. Quand tu vois Carlos Alcaraz qui vient effectivement tout juste de gagner l'US Open et qu'il a y aligné, c'est normal. Il a 19 ans. À 19 ans, t'es pas fatigué, tu peux enchaîner les matchs. Le genre de programmation que tu vas faire n'a absolument rien à voir par rapport à quand t'as déjà quasiment 20 ans de circuit ou 20 ans de circuit et que t'en es à 35, 36 ans et que les semaines de compétition, tu vas les choisir parce que tu sais très bien que tu ne veux pas avoir le même calendrier que quand tu avais 20 balais et que forcément tu récupères beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, il faut faire une compétition déjà pour les spectateurs, pour que ça intéresse les spectateurs, pour que les gens à nouveau se remotivent de se déplacer pour voir leur équipe. Parce que encore une fois, en fait, c'est beaucoup les fan clubs. Oui. Qui se déplacent pour aller voir les équipes de leur nation respective. En France, c'est extrêmement bien organisé. Il y a un fan club pour la Coupe Davis, il y a un fan club pour la Fed Cup. Les gens se déplacent. Il y a même la fédération qui les aide justement à couvrir un tout petit peu leurs frais de déplacement. Et c'est extrêmement bien organisé. C'est eux qui mettent l'ambiance. Donc déjà, il faut repartir sur les bases. Comment refaire venir les spectateurs dans les arènes? Effectivement, on voit en Espagne que les spectateurs viennent parce que c'est en Espagne. Ils ont envie de voir leurs joueurs espagnols. Ils viennent. Donc déjà, on repart là-dessus. À la maison ou à l'extérieur. Après, on repart sur 3 jours avec 5 points à gagner. Donc 3 points minimum à gagner pour gagner la rencontre. Et après, tu fais un groupe de 8. Déjà, tu repars là-dessus. Et après, tu vois effectivement sur quelle semaine tu peux les placer en fonction des calendriers, en sachant très bien que des joueurs qui ont 35 ou 36 ans ne vont pas forcément faire ces choix, mais tu tapes sur la nouvelle génération qui, eux, sont capables d'enchaîner beaucoup plus parce qu'ils ont la fraîcheur de la jeunesse.
Ok, bon bah en tout cas on te donnera le numéro de Gérard Piqué, comme ça tu pourras lui expliquer la quatrième formule en 4 ans.
Elle m'a donné mal à la tête.
Ouais, bah quand on parle de formule, ça devient tout de suite très compliqué. En tout cas, arrêtez. Anthony, tu rentres quand toi? Tu vas te fader la journée là encore?
Non, justement, on va pas couvrir un match.
Ah bah ouais, c'était le seul direct que j'avais
sur
le
merci.
Désolé, reparler de la formule, Christophe, je suis tout
oui, ah ben bah exactement. Alors je te lance l'invitation à 14h15. Est-ce que tu es dispo pour
durer par la suite?
Ok. Donc en fait,
je fais mon marché.
Tu fais ton conducteur pour les GG. Ok, pas de souci. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été avec nous. Et franchement, bravo pour cette semaine. Génial. Heureusement qu'il y a eu la retraite de Roger Federer. Comme ça, il a pu au moins faire d'autres choses que de s'occuper de la Coupe Davis. Merci, Anthony, en tout cas. Et toutes les dernières informations sur la Coupe Davis, si ça vous intéresse encore, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face. C'est le 32-16. A tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, les dernières minutes des GG. À partir de midi, les paris RMC autour de la 8e journée de Ligue 1, notamment autour du basket aussi avec l'Euro et les Bleus en finale face à l'Espagne demain à 20h30. On vous donnera toutes les meilleures cotes du week-end. Restez bien avec nous, mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
On accueille Lilian qui a composé le 32-16. Salut Lilian. Lilian, une fois. Lilian, deux fois.
Lilian, deux fois.
Lilian, trois fois. Lilian est parti, mais il va revenir tout de suite. Il ne s'est pas défilé, rassurez-vous. Il va quand même venir vous affronter. Benoît est avec nous, il a composé le 32-16. Salut Benoît.
Bonjour à tous.
Alors Benoît, tu vas affronter qui?
Denis et Marion, à propos du Qatar.
Ok, et de la Coupe du Monde et du boycott voulu par Eric Cantona. Denis et Marion, t'écoute. C'est courageux à toi de vouloir affronter deux GG d'un coup. Franchement, c'est beau, c'est une première.
C'est bien, mais je vais quand même me lancer.
Vas-y, Benoît.
Bonjour à tous les deux, effectivement.
Salut,
j'ai cru comprendre que pour vous, ça allait servir à rien qu'on boycotte. Alors moi, je voudrais vous expliquer mon point de vue. Évidemment, ça ne servira à rien par rapport à cette Coupe du Monde. Elle aura lieu, voilà. Mais je pense qu'il faut penser à l'après. Depuis 10 ans, on voit bien que les fédérations internationales, le foot, les JO, c'est attribué à des pays pas forcément bons, parfaits sur tous les points. Et donc, il faut penser à la suite. Et si on boycotte cette Coupe du Monde, nous, comment le faire? En ne regardant pas les matchs. Les diffuseurs qui ont acheté ça extrêmement cher, ils vont avoir les annonceurs qui vont leur retomber dessus. Écoutez, on n'a pas vu nos pubs. Et les diffuseurs, le prochain coup, ils vont dire à la FIFA, au comité olympique, ils vont leur dire, les gars, la prochaine fois que vous attribuez à un pays une compétition internationale d'envergure, attention, on va plus vous les acheter aussi cher, les droits de diffusion, si vous les mettez à n'importe quel pays qui respecte pas les droits de l'homme, qui respecte pas l'écologie, etc. Parce que nous, derrière, on rentre pas dans nos frais, parce que les gens ne regardent pas, donc on vend plus de pubs. C'est comme ça, à mon avis, qu'on a du poids, chacun de notre côté.
D'abord,
Denis Charvet.
J'ai dit qu'il fallait pas boycotter parce que c'est trop tard.
Oui, mais pour celle-là, pour la suite.
Si on en parle, si on remonte à 10-12 ans avant, ou 12 ans, parce que c'était en 2010.
Oui, mais l'argument de Benoît, c'est de dire, alors, ok, ça changera rien pour cette Coupe du Monde, mais au moins, je te réponds, on réfléchira à deux fois maintenant.
Je te réponds, tu verras les audiences télé, tu vas voir, ça va faire un carton.
Alors, vous avez vu le sondage qui dit que 48% des Français sont prêts à ne pas regarder les matchs
en regardant les audiences.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Exactement.
Sachez que les spots de pub pour la finale à la mi-temps, en cas de présence de la France, c'est 330 000 euros les 30 secondes. Donc pour TF1, là aussi, c'est un enjeu tellement important, cette Coupe du Monde, pour les médias, pour nous aussi. Évidemment que pour ça, c'est difficile d'appeler au boycott de tout le monde, hein, parce qu'il y a des enjeux très importants.
Marion, tu veux répondre à Benoît?
Non, mais totalement. Le problème, c'est que maintenant, une fois que c'est attribué, on va pas se tirer une balle dans le pied en disant, mais personne va regarder. Donc, du coup, effectivement, les publicités auront plus aucune valeur. Tout va s'écrouler. Et en plus, malheureusement, les chaînes françaises vont en payer le prix avec des droits télé qu'ils ont payé extrêmement cher. Ils vont pas rentrer dans leurs frais. Là, ça serait ridicule de nous-mêmes nous tirer notre propre balle dans le pied avec TF1 ou d'autres chaînes qui diffuseront. Okay, en regardant pas. En revanche, la prochaine fois, effectivement, faire un peu plus attention à la ville ou au pays qui va accueillir la Coupe du Monde, certes, mais il y a une réalité économique aujourd'hui où il n'y a plus beaucoup de pays dans la crise économique qu'on a connue qui sont capables d'aligner assez d'argent pour organiser une Coupe du Monde. Elle est là, la réalité.
C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois,
maintenant, n'importe où.
Ce sont des duos des trios qui organisent cette Coupe du Monde et ce n'est plus un pays unique.
Donc il y a cette réalité financière où ça devient de plus en plus compliqué pour des pays d'aligner des sommes aussi importantes pour organiser un événement sportif.
Merci Benoît d'avoir composé le 32-16 et bravo d'être venu affronter Denis et Marion sur ce sujet évidemment si délicat.
Merci à vous.
À bientôt sur RMC. Lilian nous appelle au 32-16. Ça y est, on a retrouvé la connexion avec Lilian. Bonjour Lilian.
Bonjour. Salut les GG.
Il y a les enfants à côté, Lilian ?
C'est ça, ils sont sages, oui.
Bon, très bien. Parfait. On les embrasse évidemment. Lilian, tu veux affronter qui ?
Ah ben du coup c'était plutôt Marion pour le débat sur le GOAT homme-femme du tennis.
L'équipe Serena avec Christophe Cessieux, vas-y, il t'écoute.
C'est ça, tout à fait. Donc même si les arguments étaient plutôt bons, on s'éloigne légèrement quand même du sujet. On ne juge pas le parcours personnel, sachant d'où vient la personne, ses réussites pour en arriver là, les difficultés personnelles. On s'éloigne un peu trop du tennis dans ce cas-là. Et moi, je pense que pour juger un GOAT, du coup, c'est l'empreinte qu'on va laisser. Ça va être les confrontations. L'adversité qu'a eu Roger Federer est incomparable avec l'adversité que Serena a eue. Il y a entre de Sampras à Nadal, en passant par Djoko, par Murray, il y a eu une telle densité, des finales monumentales à l'appel, des demi-finales de grand chelem, des quarts de finale extraordinaires qu'on n'a pas du tout chez Serena Williams. Et je parle du coup même pas du style, on a tellement parlé, le style de Federer qui est exceptionnel. Et si on doit demander à n'importe qui, citez-moi la légende du tennis en général, le nom qui vient c'est Federer et le GOAT. Et ça, c'est pas que des statistiques. Souvent, on a ce débat. Moi, je suis fan de Nadal. Et même si, statistiquement, on pourrait défendre Nadal, il y a quand même ce truc où tu es une icône, tu es une légende de par ton parcours, de par ton style et de par l'adversité qu'il y a eu. Je reconnais une chose, ce qui favorise pas le tennis féminin, un petit peu, c'est ce format en 2-7 pour les grands chelems, parce qu'effectivement les finales de grands chelems en 5-7 c'est extraordinaire, et les victoires en 2 ou 3-7 ne peuvent pas avoir la même dimension. Par exemple, l'adversité Céleste Grass, moi quand j'étais ado, les gens attendaient la finale Céleste Grass autant que la finale Courrier Muster, quoi. Maintenant, c'est quand même plus pareil dans l'ensemble des tournois du grand chelem et dans le monde, on parle dans le monde, hein, US Open, que Serena ait fait une audience exceptionnelle. Elle est américaine, tout à fait normal. Mais en fait, les Chinois, les Américains, partout dans le monde, on se lève à 3h du matin pour voir jouer Roger Federer. Et okay. C'est tout.
Qui veut répondre, Christophe, Marion? Marion, tu veux répondre?
Non, mais écoute... Je vais essayer d'être diplomatique. Tes arguments, Lilian, je les entends et ils sont totalement recevables. Après, tu peux pas comparer, et tu l'as dit toi-même, les matchs féminins et les matchs masculins, parce qu'effectivement, de toute façon, ça va pas être la même durée et forcément, le suspense sera inférieur. Après, quand tu parles, la question n'était pas sur le GOAT, de savoir qui est la plus grande joueuse ou le plus grand joueur. La question, c'est savoir qui va laisser la plus grande empreinte. Et donc, quand tu laisses une plus grande empreinte, t'es obligé de parler de l'histoire. Christophe l'a rappelé avec Mohamed Ali, tu peux pas détacher totalement l'histoire de quelqu'un par rapport à sa carrière, parce que forcément ça a une influence absolument énorme. Mais les arguments que tu as avancés pour Roger, je les entends, ils sont totalement corrects et justes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est un débat qui est extrêmement difficile pour moi, parce que je les ai connus tous les deux, j'ai affronté Serena, j'ai côtoyé Roger sur les mêmes tournois pendant plus de 10 ans, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, donc pour moi c'était pas facile de prendre parti. Mais par mon parcours personnel, j'ai un tout petit peu plus d'attache par rapport au parcours de Serena, en fonction de ce qu'elle a vécu, avec effectivement par rapport à Roger, où tout était beaucoup plus entre guillemets facile pour lui par ce côté génial qu'il avait lorsqu'il jouait sur un terrain.
Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile pour vous ce débat, et c'est aussi pour ça qu'on en fait, c'est pour la passion, même si on n'arrivera pas à résoudre et à répondre véritablement à cette question. En tout cas, Lilian, je te prends deux petites secondes juste pour te dire, je sais pas si t'as convaincu Marion Bartoli ou les autres GG, mais sache que Nicolas Batum vient de m'envoyer un message et vient de me dire engagez Lilian. Voilà, donc visiblement il était d'accord avec toi. Donc voilà.
J'avais appelé après Roland Garros pour dire que le GOAT était Nadal. Mais j'ai quand même remis un peu en question certaines choses. Voilà.
On peut dire que
je passerai l'éternel deuxième et Joko l'éternel troisième.
Lilian, on peut dire que maintenant le GOAT, c'est plutôt Nicolas Batum. Voilà, on peut le dire maintenant comme ça.
Je sais pas si tu diras ça, Lilian, quand Djokovic sera 25 grands chelems. On te rappellera.
Merci beaucoup, Lilian, et merci d'avoir composé le 32-16. Merci, mes GG, Christophe.
On est toujours
Fessieux
à 86 pour Federer et 14 pour Serena. On a toujours gagné,
non,
hein,
Marion.
Merci. Merci Marion Bartoli, merci Cyril Marais, merci Denis Charvet. Je remercie évidemment Maxime Abolin à la production, Bastien Madonna à la réalisation aujourd'hui et Noël Legrette à la démission. Tout de suite, c'est les Paris RMC. On vous embrasse. Salut.